dans la série d'entrevues qu'on vous présente, qu'on vous a présenté tout au cours de l'été. Aujourd'hui, un spécialiste en herpétologie de l'Université d'Ottawa, le professeur Gabriel Blouin-Demers. Ça fait rire un peu, herpétologie. Alors, M. Blouin, je vais vous demander d'abord ce que c'est Blouin-Demers. Qu'est-ce que c'est qu'un herpétologue?
M. Mathieu, un herpétologue, c'est quelqu'un qui étudie les reptiles et amphibiens. Cependant, c'est assez vaste. C'est toutes sortes de questions qu'on pose avec les reptiles et amphibiens. Ça peut être de la systématique, ça peut être de l'écologie, ça pourrait être de la physiologie. Dans mon cas, je m'intéresse plus à l'écologie. Puis en fait, je ne fais pas beaucoup de travaux sur les amphibiens. Je travaille surtout sur les reptiles. Donc, je suis une sous-catégorie d'herpétologue.
Et qu'est-ce que vous faites? L'été, il y a beaucoup d'enseignants qui sont... Mais les chercheurs, eux, travaillent pendant l'été parce que vous n'enseignez pas. Donc, c'est une belle période.
Oui, c'est une belle période. Puis en fait, on fait un peu d'enseignement. Dans mon cas, je fais quand même de l'enseignement l'été puisque je donne des cours pratiques sur le terrain. Donc, il y a deux semaines, j'étais en cours avec un groupe d'étudiants dans l'est de l'Ontario qui apprenaient des techniques en écologie, mais c'est vrai que c'est un temps où l'enseignement est plus moins demandant, puis on peut passer plus de temps sur la recherche.
Bon. Et qu'est-ce que vous faites comme recherche exactement?
Il y a deux grands axes de recherche dans mon laboratoire. J'ai environ la moitié de mes étudiants qui vont travailler sur des questions de conservation appliquée. Puis je vais vous donner un petit peu d'informations là-dessus. Il y a une quarantaine d'espèces de reptiles au Canada, dont un peu plus de 25 se retrouvent en Ontario. Puis il y en a 20 de ces espèces-là qui ont été évaluées par le Comité sur le statut des espèces en péril au Canada, le COSEPAC.
Dont les tortues, là.
Dont les tortues, les serpents, tout ça. Puis 19 de ces espèces-là qui ont été évaluées sont considérées comme étant à risque. Donc 86% en gros des reptiles ontariens sont dans une des catégories de risque du COSEPAC, ce qui les rend proportionnellement le groupe de vertébrés le plus à risque au Canada. Donc on a beaucoup d'opportunités quand on travaille sur les reptiles de faire des projets de conservation. Donc j'ai des projets qui sont financés par exemple par Parc Canada, par le ministère des Ressources naturelles de l'Ontario, pour décrire les habitats critiques de certaines espèces. Par exemple, au Parc national des îles Saint-Laurent, on fait des travaux sur les tortues là-bas. Donc, la moitié de nos labos sont sur des projets de conservation appliqués qui sont financés par des organismes de conservation. L'autre moitié de mon laboratoire travaille sur des questions de recherche plus fondamentales sur l'écophysiologie et le comportement des reptiles. Donc, on fait des travaux sur la thermorégulation, l'interaction entre l'environnement et ces bestioles-là.
Avant d'aller trop loin, j'aimerais revenir à votre première phase de recherche. Est-ce que c'est illusoire de penser que vous pourriez rétablir l'équilibre pour certaines espèces? Est-ce que vous y arrivez?
Il y a certaines espèces où il semble qu'il n'y ait pas beaucoup d'espoir. Il y a d'autres espèces où les populations sont encore assez saines, puis je pense ayant pris le problème assez tôt, il est possible de renverser certaines des tendances qu'on observe.
Et comment fait-on?
Il y a plusieurs problématiques d'aménagement sur lesquelles on peut travailler. Un des exemples que je peux vous donner, c'est un des phénomènes qu'on a documenté chez les tortues, par exemple, c'est pour rétablir une population de tortues, ce qui semble vraiment le plus important, ce qu'on a identifié, c'est la survie des adultes. Naturellement, le taux de survie des jeunes est très, très faible chez les tortues. Il y a un haut taux de prédation des nids par ratons laveurs, corneilles, toutes sortes de choses comme ça. Mais les adultes, une fois qu'ils atteignent l'âge de la maturité, sont moins vulnérables, vivent très longtemps. Et donc, il semble qu'en protégeant les adultes, on peut avoir un impact positif sur la population. À partir de ce moment-là, on peut cibler nos interventions pour vraiment protéger les adultes, donc essayer de diminuer la mortalité routière. On a installé la signalisation routière quand les tortues sortent sur
les
routes.
Dans l'Est ontarien,
Parce que vous avez peut-être vu ça quand vous promenez, donc faire attention aux individus qui traversent les routes.
Ça
donc,
fait toujours sourire au départ, d'ailleurs, parce que d'habitude, ce sont des traverses de rignaux.
De rignaux.
Et là, on voit des traverses de tortues, on se dit, on va être là pour longtemps. Mais c'est, ça aussi, c'est un mythe, la tortue marche quand même assez rapidement.
Ça marche assez rapidement, c'est pas si lent que ça.
La deuxième phase de vos travaux.
La deuxième phase, donc, c'est des recherches plus fondamentales qui sont financées, au lieu d'être financées par des organismes de conservation, comme Parc Canada, par exemple, c'est financé par le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada. Donc, c'est vraiment la recherche fondamentale où on se pose des questions qui, a priori, n'ont pas nécessairement d'application pratico-pratique dans l'immédiat. Donc, on s'intéresse beaucoup à la thermorégulation, on s'intéresse à l'écophysiologie, c'est-à-dire comment les contraintes...
Thermorégulation, c'est-à-dire comment s'adapter à notre environnement?
Les reptiles sont très particuliers dans le sens qu'ils ne peuvent... Ils génèrent une quantité de chaleur métabolique qui est très minimale. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas contrôler leur température corporelle de façon physiologiques. Donc, ils utilisent le comportement, ils vont aller se faire chauffer au soleil, tout ça, pour maintenir la température corporelle à peu près constante. Et c'est très important, ça, parce que tous les processus physiologiques, comme le taux de digestion, le taux métabolique de base, toutes ces choses-là dépendent de la température. Et donc, si on est trop chaud ou trop froid, tous ces processus-là se fonctionnent à des taux qui ne sont pas optimaux. Et donc, la thermorégulation est le mécanisme que les reptiles utilisent pour maximiser leur performance au niveau physiologique, puis ils doivent faire ça de façon comportementale par opposition aux homéothermes comme vous et moi, homéothermes qui veut dire température constante de façon physiologique. Qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, monsieur Mathieu, vous êtes à 37,5. Un reptile qui fasse froid ou qui fasse chaud, ça va affecter.
À moins d'avoir une montée de fièvre, bien
sûr. Mais même là, on parle de fièvre, d'une variation.
Mais là, il y a un processus qui se met en branle pour ramener notre température.
Un reptile, dans le cours d'une journée, peut commencer sa journée autour de 10-12 degrés Celsius de température corporelle, monter jusqu'à 40. Donc, on parle d'un écart d'une trentaine de degrés.
Ce que vous découvrez, est-ce que ça pourrait être applicable aux humains éventuellement ou à quelque chose qui pourrait servir aux humains?
Non, je dois dire que la plupart des questions qu'on pose sont d'intérêt scientifique, c'est-à-dire qu'il y a des hypothèses, des théories qu'on teste qui essaient d'expliquer, par exemple, l'évolution de l'endothermie. Pourquoi l'endothermie a évolué? De là à dire que peut-être ça va bénéficier aux humains demain matin, c'est pas évident, le lien n'est pas là, mais il y a beaucoup de recherches comme ça qui se font, qui éventuellement dans 10, 20, 15 ans, on se rend compte que finalement, il y avait des applications qu'on n'avait pas vues au départ.
Bon, je disais hier qu'il faisait 40 avec l'humidité. On était un 29 août quand même, ce qui est assez habituel. Alors, il y a des changements climatiques. Allons pas jusqu'à dire qu'hier, on était responsable, mais on peut voir que les reptiles sont affectés par les changements climatiques?
Bien, on a un axe de recherche, justement, c'est curieux que vous le mentionniez, qui essaie de déterminer quel sera l'effet des changements climatiques sur les reptiles. Et l'approche qu'on utilise, c'est qu'on a des suivis à long terme de plusieurs populations, et on essaie de regarder comment la variation annuelle du climat affecte leur démographie, par exemple leur taux de croissance, la proportion d'individus qui vont se reproduire, ce genre de choses-là. Comment ça varie de façon annuelle en fonction des grands index climatiques? Vous avez entendu parler du fameux El Niño, tout ça, et on a des index climatiques comme ça qui peuvent... Et on peut utiliser ces index-là pour voir comment ça affecte la démographie d'année en année. Puis s'il y a des effets, extrapoler ça, qu'est-ce qui pourrait arriver selon différents scénarios de réchauffement global? Il semble que pour les reptiles, ici au Canada, les changements globaux climatiques, ce ne soit pas nécessairement une mauvaise chose. C'est-à-dire que ça va permettre à ce qu'ils se reproduisent de façon plus fréquente, ça va augmenter leur taux de croissance. Mais il faut penser que la majorité des reptiles sont tropicaux ou désertiques, puis dans ce cas-là, bien, les changements climatiques seront sans doute néfastes parce que ça va... rendre des endroits qui sont déjà chauds, encore plus chauds et peut-être inhabitables par des ectothermes.
J'imagine que dans votre laboratoire, vous pouvez reproduire différentes températures et différents degrés de...
Oui, on est équipé pour faire ça. En labo, on peut faire des expériences avec des chambres environnementales. En champ, on peut aussi faire des expériences qu'on appelle une expérience de type naturel, c'est-à-dire qu'on a des suivis sur plus de 10 ans sur certaines populations et donc on peut comparer des années très froides aux années très chaudes. Puis donc la nature peut aussi faire une expérience pour nous quand on a des données sur le long terme. Mais on est équipé en labo ici à l'université pour faire des choses en labo.
C'est vraiment fascinant.
Moi, j'aime beaucoup ça.
Ça s'entend. Oui, ça se voit d'ailleurs. Ben, je vous remercie beaucoup d'être venu.
Ça m'a fait grand plaisir de passer vous voir.
Toujours très intéressant. Gabriel Blouin-Demers, professeur au département de biologie à la Faculté des sciences de l'Université d'Ottawa. Il est herpétologue.